Le garçon insiste. Elle ouvre. C'est un couteau dont la lame est très fine, très ancienne, ça se voit. Le manche est en bois, il est taillé. Il y a dessus un tigre et un cheval finement ciselés. Elle voudrait refuser, mais le jeune homme a l'air si fier, si heureux. Elle dit merci. Samuel descend de son cheval, il regarde le couteau. Puis le jeune garçon va chercher dans un autre sac, suspendu à la selle de son cheval. C'est de la part de Jamila. Sibyl devine déjà ce que c'est. Le vieux pistolet qui était dans la voiture et une boîte de munitions. Sibyl prend l'arme et les balles. Le jeune garçon est déjà sur son cheval. Sibyl ne sait pas comment dire son émotion. Elle regarde Samuel qui remonte sur sa selle. Elle reste là. Elle a le pistolet dans ses mains. Elle déteste les armes à feu et a toujours pensé qu'avec une arme, rien de bon ne pouvait arriver. Mais il est vrai que tout ce qu'elle a cru dans sa vie s'est souvent effondré et qu'elle sait la valeur de ce pistolet pour Jamila. Alors, voilà, elle se retrouve avec une arme. Elle sourit en pensant à la générosité de Jamila. Soudain, le petit cheval gris repart, entraînant avec lui le sourire du jeune garçon, quelques herbes sous les sabots et une nuée grise de poussière qui danse longtemps sur sa trace, comme le halo d'une apparition. Samuel attend un moment. Il regarde sa mère. « Dis, tu me montres le pistolet ? Je peux regarder le pistolet ?» Deuxième partie. Peindre un cheval mort. Son arrivée ici, Samuel l'avait faite sans désir, sans volonté, ou alors avec la volonté de résister à tout ce qu'on voudrait lui imposer, à tout ce bien qu'on voulait pour lui, sans qu'il ait le choix de s'y opposer. Il avait pensé que si sa mère avait voulu lui infliger une randonnée de plusieurs semaines en France ou en Europe, il aurait pu essayer de profiter d'une nuit pour foutre le camp. Mais il ne pourrait pas le faire dans un pays aussi éloigné que le Kirghizistan, là où la langue serait un obstacle infranchissable et où il n'aurait en définitive pas les moyens de se débrouiller seul. Alors il avait projeté de tout planter là, avant la date du départ. Pourtant les jours passaient et il ne faisait rien, comme si un poids trop lourd l'empêchait de mettre son plan à exécution. Il regardait sa mère sans lui dire combien il se foutait de son projet, de son voyage, de leur départ. Il s'en foutait comme il se foutait de ce que plus personne ne lui parlait à l'école, ni parmi les amis avec qui il avait déconné ce fameux soir de mars à Lacano, ni les autres, ni bien sûr Vyosna, qui le regardait comme un pestiféré, ou un moins que rien. Et lui, il pensait qu'elle avait raison, qu'il méritait ce regard-là. Ça, oui, le cœur se retournait. Samuel était resté éperdu de honte et mortifié. Sa mère se faisait des illusions si elle pensait qu'elle pourrait changer quelque chose en lui, de lui. Si elle croyait qu'il lui suffirait de prendre quelques semaines de grand air, accompagné de chevaux et de montagnes, de silence et de lacs, pour que soudain tout dans sa vie se déplie et devienne simple et clair, pacifié, lumineux, pour qu'il cesse enfin de se sentir écrasé à l'intérieur de lui-même. Comme si on allait arrêter un jour d'appuyer sur son cœur, sur son âme, sur sa vie, comme si l'étau pouvait un jour se desserrer. Alors, quand Sibyl avait organisé le voyage, elle n'avait dû compter que sur elle-même pour préparer les sacs, les vêtements, le matériel, pour se poser la question de l'argent, pour organiser leur accueil, c'est-à-dire entrer en contact avec des Français sur place, qui pourraient l'aider à acheter les chevaux sur l'un des marchés de Bishkek, l'aider à ne pas commettre certaines erreurs dans le choix du matériel, etc. Choisir le parcours qu'il faudrait suivre pour faire le tour du pays et revenir au point de départ, afin de revendre les chevaux et de reprendre l'avion. Elle avait vendu la maison de son père, s'était mise en disponibilité à son travail, avait organisé une sous-location pour l'appartement, et puis elle avait consulté, lu, conçu leur voyage. La seule chose qu'elle avait imposée à Samuel, c'était de reprendre l'équitation, de se remettre en mouvement. Il avait accepté, et l'avait fait sans rechigner, mais avec indifférence. Il allait prendre le tramway, porte de Bourgogne, et chaque samedi et mercredi, il se rendait au centre équestre. Parfois, ils y allaient ensemble, mais elle avait plus de mal, à cause de son travail. Samuel regardait sa mère avec étonnement, en silence, parce qu'il pensait qu'aujourd'hui ou demain, se répétait-il, en rentrant de l'école ou d'ailleurs, il la trouverait effondrée devant la télécommande à la main, ou sur son lit allongé avec un livre ou un magazine, ou affalée, le dos à moitié cassé sur une chaise dans la